le magazine des Nations Unies.
Bonjour et bienvenue dans le magazine des Nations Unies. Ce dimanche, nous parlerons des 13 bougies que Radio Capi a soufflées mercredi dernier. La Radio de la Paix a été créée le 25 février 2002. Depuis lors, elle a fait du chemin. Vous suivrez dans cette édition un éclairage sur ce qui fait la force et la particularité de ce média onusien en RDC. Et puis la réforme de la police nationale congolaise entre dans sa phase de mise en œuvre. Quels sont les défis à relever en 2015 dans le cadre du plan quinquennal de ce processus? Réponse dans un instant avec le secrétaire exécutif du comité de suivi de la réforme de la police qui est l'invité de cette émission. Dernier titre, les FARDC ont lancé les opérations militaires de traque contre les FDLR cette semaine au Sud Kivu. Quelles sont les dispositions prises par le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés pour la protection des personnes sous mandat, notamment les déplacés internes et les réfugiés burundais et rwandais dans le territoire d'Uvira? Des précisions également dans cette émission. Voilà tout pour le sommaire.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Nous vous saluons chez vous. Deux faits ont marqué cette semaine qui s'achève au sein du système onusien en RDC, précisément à la MONUSCO. Il s'agit du 13e anniversaire de Radio Okapi, la radio de la paix, mais aussi des adieux de Abdallah Wafi à la presse congolaise. Mercredi dernier, au cours de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies, le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies quitte la RDC après près de 6 ans de service au sein de la MONUSCO. Jean-Pierre Lally Coco revient sur les deux faits dans ce reportage.
Radio Capi a soufflé sur ses 13 bougies mercredi dernier. En effet, c'est le 25 février 2002 que la radio de la paix a vu le jour, alors qu'elle s'ouvrait à Sun City, en Afrique du Sud, les travaux du dialogue intercongolais. Depuis, cette radio est devenue, au fil des ans, une véritable radio nationale couvrant l'ensemble du pays. Au point de compter à ce jour, selon les derniers sondages, 24 millions d'auditeurs par semaine. Qu'est-ce qui fait alors la force et même la particularité des radios Capi dans le microcosme médiatique congolais? Charles Bambara, directeur de la division de l'information publique et porte-parole de la MONUSCO, explique.
Cette radio, qui a une coloration apolitique, s'efforce chaque jour d'équilibrer le contenu de son offre éditoriale en donnant la parole à toutes les couches sociales de la population ainsi qu'à tous les courants politiques et d'idées. Le traitement de l'information est donc impartial et la charte éditoriale de Radio Capi interpelle tous les journalistes exerçant au sein de cette radio à observer cette neutralité et cette impartialité.
Léonard Moulamba, rédacteur en chef de Radio Capi, revient, lui, sur le fonctionnement de cette grande machine qui est la radio onusienne.
Le fonctionnement repose sur l'organigramme à la rédaction en chef. Outre le rédacteur en chef, nous avons 5 rédacteurs en chef adjoints, chacun s'occupant d'un secteur précis. Et il y a, au niveau de la rédaction centrale, des coordonnateurs. Et il y a les chefs de desk, les différents desks, comme le desk économique, comme Okapi Service, comme Dialogue entre Congolais, comme le web, comme le magazine des Nations Unies. Il y a le responsable, donc, de chacun de ces services-là. Au niveau des provinces, il y a les secrétaires de rédaction dans les différentes rédactions que nous avons. Et ce sont ces collègues, ces collaborateurs qui coordonnent, donc, le travail au niveau de leur desk respectifs. Ils collectent l'information pour ce qui est, par exemple, des news, donc les informations. Ils envoient ces éléments d'information à Kinshasa ou pour les informations de proximité. Ces infos sont traitées dans des décrochages régionaux, là où il y a des décrochages. Nous bénéficions également du service de radio partenaire. Nous avons des collègues qui collectent ou qui rassemblent les infos venant des radios partenaires. Donc la rédaction centrale repose sur le travail à la base qui est fait et qui est dirigé vers Kinshasa.
Et les difficultés ne manquent pas.
En fait, vous savez que la MONUSCO, qui est propriétaire de cette radio, est en train de reconfigurer la mission sur le plan national. Ce qui fait qu'au niveau de Radio Capi, nous avons aussi ressenti les soubresauts en quelque sorte. Il y a des rédactions qui ont été affectées, on a réduit les effectifs. et là où il y avait des studios de diffusion aussi comme Mbandaka, comme Mbujimayi, comme Kindu, ces studios ont été fermés. On ne sait plus travailler comme avant. Autre difficulté, c'est au niveau des MoveCon, donc les avions des Nations Unies qui nous permettaient une mobilité à l'intérieur de chacune de ces provinces. Aujourd'hui, ces moyens logistiques ont été réduits. Il y a aussi la difficulté liée aux communications téléphoniques. Pour terminer, la Fondation Hirondelle, qui était partenaire de la MONUSCO au sein de la Radio Okapi, a arrêté ses services au 31 décembre 2014 suite aux difficultés budgétaires. La Fondation nous permettait une certaine flexibilité. Ça nous manque pour le moment. J'espère que les Nations Unies vont pallier à cela dans les meilleurs délais.
Un autre fait qui a marqué cette conférence, c'est le dernier face-à-face Abdallah Wafi Press. Dernier face-à-face parce que le représentant spécial adjoint de Ban Ki-moon quittait définitivement la RDC. S'agissant du bilan de son action en RDC, le général Wafi laisse aux Congolais les soins de juger.
Maintenant, pour parler du bilan, moi je préfère les Congolais eux-mêmes s'exprimer.
Abdallah Wafi dit mettre à profit l'expérience acquise en RDC pour le Niger, son pays, qu'il représentera désormais comme ambassadeur aux Nations Unies.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
L'enregistrement des naissances à l'état civil a connu une bonne évolution en 2014 dans la ville de Kinshasa, soit un taux de 39% alors qu'il n'était que de 25% en 2013. C'est le constat fait jeudi dernier par une centaine de préposés à l'état civil lors d'un atelier d'évaluation des résultats des travaux réalisés l'année dernière à Kinshasa, des travaux qui ont été réalisés avec l'appui technique et financier de l'UNICEF. Maître Noël Luenda, chef de division chargé des affaires civil et juridique à la division urbaine du ministère de l'Intérieur et partenaire de l'UNICEF, explique ici les mobiles de cette performance ainsi que l'importance pour tout parent d'enregistrer son enfant à l'état civil. Il est au micro de Jean-Pierre Elali Ikoko.
Maître Noël Luenda, bonjour.
Bonjour Monsieur Elali.
Nous venons d'assister à la présentation des résultats des travaux de l'état civil en 2014. Alors, maître, pourquoi enregistrer l'enfant à l'état civil?
Je pense que nous avons bien expliqué que l'enregistrement des enfants, pas seulement l'enregistrement des enfants, l'enregistrement des naissances, des mariages, des décès est une obligation légale. Donc c'est vraiment une obligation qui est prévue dans nos lois. Nous avons en l'occurrence les codes de la famille ainsi que la loi portant protection de l'enfant qui oblige à ce que les parents puissent aller au bureau de l'état civil faire la déclaration dans les 90 jours de la naissance. Lorsque la déclaration est faite, c'est que officiellement l'enfant a l'identité. Nous le savons que l'identité commence toujours par le nom et par la nationalité. Lorsque l'enfant est enregistré, l'État a officiellement des statistiques. Il sait se référer que voilà, à X temps, X territoire, il y a X personnes qui venaient de naître et qui est compté parmi mes ressortissants. Donc c'est la couverture des liens de la nationalité. Et l'enregistrement des enfants fait protéger aussi les enfants contre divers abus. Aujourd'hui, vous le savez qu'on a interdit à ce qu'on puisse marier les enfants précocement, qu'on puisse utiliser les enfants dans les groupes forces armées, qu'on puisse utiliser les enfants dans les travaux lourds, dans des mines. Mais quel est le document qui peut prouver que X est mineur, X est majeur? C'est l'acte de naissance. Donc c'est un document important pour la vie d'une personne.
Maître Noël, est-ce que nous pouvons savoir un peu les résultats auxquels vous êtes parvenu?
Ok, avec les activités que nous avons mises en œuvre ici dans la ville de Kinshasa en 2014, là vraiment nous félicitons l'appui de l'UNICEF. Nous avons aussi certaines villes belges qui ont contribué dans nos activités. Alors nous avons retenu qu'il y a une bonne évolution, une bonne amélioration du taux d'enfants enregistrés. Parce qu'avant 2010, nous étions à moins de 25%, mais maintenant nous sommes à 39% d'enfants qui sont enregistrés à l'état civil. Vraiment, c'est un grand progrès parce que pour nous, sauver la vie d'un enfant compte. Et si vraiment nous avons atteint 39%, sur le plan des enquêtes, parce qu'à la routine, nous sommes déjà à plus de 50%, donc nous sommes dans les bons. Mais maintenant, le grand problème qui reste à régler, c'est que les enfants enregistrés et il faut que les parents aient les actes de naissance. C'est ça le plus grand défi que nous avons pour 2015.
Donc vous déplorez là la lenteur dans la livraison des actes de naissance au niveau de l'état civil?
C'est un problème qui est courant dans tous les bureaux de l'état civil. Nous avons tantôt des officiers qui sont toujours absents dans leur bureau. Bon, Kinshasa, une autre réalité. Maintenant, nous avons des bureaux secondaires où vous trouvez des officiers permanents. Donc là, on enregistre, les parents reçoivent également les actes de naissance. Mais le problème de la lenteur est toujours en cours dans beaucoup de bureaux de l'état civil.
Et l'autre aspect évoqué, c'est la formation des acteurs de l'état civil. En quoi consiste cette formation?
Nous avons capacité nos acteurs de terrain sur l'utilisation des registres. Parce que le problème que nous venions d'évoquer ici, lorsqu'on enregistre, les parents ne reçoivent pas les actes de naissance, c'était lié à ça. On enregistre, mais on enregistre dans un seul volet que les bourgmestres ne signent pas. Donc nous avons voulu les capacités pour comment tenir les registres, comment travailler dans les maternités pour justement sensibiliser les parents, comment les chefs de quartier devaient collaborer avec les bureaux d'état civil pour justement que les parents aient des informations précises pour l'enregistrement de leurs enfants.
Et vous avez effleuré les difficultés que vous avez rencontrées, les faiblesses. Est-ce qu'on peut en avoir quelques-unes rencontrées au cours de l'année 2014 qui vient de s'achever?
La grande faiblesse en tout cas demeure autour de la remise des actes de naissance. Lorsqu'on enregistre que les parents n'ont pas l'acte, c'est que officiellement on peut dire que l'enfant n'est pas enregistré. Donc c'est ça le plus grand défi à relever. Mais l'autre défi aussi, c'est dans la régularisation. Dans les tribunaux, en tout cas, il y a un arrêté interministériel qui fixe les frais de jugement supplétif à moins de 30 000 francs congolais.
On en demande maintenant combien dans les tribunaux exactement?
Là, peut-être, ce sont les gens qui devraient dire les réalités, mais sinon, on nous dit toujours qu'on demande plus de 100 $. Alors que le texte est clair, donc on doit payer 29 000 francs congolais pour avoir droit à un jugement supplétif. Mais nous sommes en train de chercher à corriger cela. Donc, sensibiliser les présidents des tribunaux qui s'impliquent dans les projets, qu'ils comprennent qu'on ne peut pas vendre un jugement. C'est une personne qui vient régulariser et on doit rendre service conformément aux normes du pays.
Maître, pour terminer, vous travaillez avec l'UNICEF. Quelle a été l'implication de cette organisation des Nations Unies dans le cadre du travail que vous avez fait cette année en ce qui concerne l'enregistrement des enfants à l'état civil?
Voilà, l'UNICEF nous a apporté un grand appui dans la production des registres. Comme je venais de dire, on ne peut pas enregistrer les enfants sans registre. Donc il fallait des registres. Et qui devait le produire? C'est l'UNICEF qui a donné des fonds au ministère de la Justice pour le faire.
On peut en avoir une idée sur le montant?
Bon, les fonds qui ont couvert toutes les activités s'élèvent à 140 000 $ pour l'année passée. Donc ces fonds-là nous ont permis à capaciter nos officiers d'état civil, à outiller nos bureaux d'état civil, à construire certains bureaux de l'état civil et à travailler dans les maternités comme dans les quartiers.
Et malgré les difficultés, vous êtes satisfait du travail qui a été réalisé et quelles sont les perspectives d'avenir? Donc pour cette année 2015, qu'est-ce que vous allez faire?
Nous sommes très satisfaits parce que, comme je viens de dire, notre ligne est en train de monter, donc nous sommes dans les bons. Dans l'avenir, nous allons continuer à travailler dans les maternités parce que la procuration nous produit un bon résultat. Nous allons continuer avec les maternités, avec les quartiers.
Qu'est-ce que vous faites dans les maternités? Vous allez enregistrer sur place les enfants qui sont nés ou quoi?
Voilà, sensibiliser les mères, c'est ça d'abord le premier trait important. Vous sensibilisez d'abord parce qu'avant d'arriver, il faut que la mère ait l'information. Pourquoi son enfant devait être enregistré à l'état civil? Pourquoi il doit bien garder l'acte de naissance? Sinon, vous enregistrez aujourd'hui et demain à la maison, maman déchire l'acte. Donc, il faut donner d'abord l'information aux parents par rapport à l'importance d'enregistrer les enfants et les décès à l'état civil et aussi enregistrer les enfants par procuration, ramener la procuration au bureau d'état civil, le bureau établit l'acte et on rentre dans la maternité pour remettre les documents. Donc c'est ça le travail que nous faisons dans les maternités. C'est pratiquement le même travail que les chefs de quartier devraient faire.
Maître Luenda, je vous remercie.
Merci.
Et puis les nouvelles en bref, promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des jeunes filles en RDC, c'est l'objectif du premier forum national sur le genre, un forum organisé à Kinshasa du 24 au 26 février 2015 par le ministère du genre, famille et enfants, avec l'appui des organisations des Nations Unies telles que le FNUAP, l'ONU Femmes, l'UNICEF et le PNUD, ainsi que le gouvernement suédois. La rencontre a réuni les ministres et chefs de division provinciaux du secteur. Plusieurs thèmes y ont été discutés, notamment le leadership féminin, la lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre, la santé maternelle, la protection des enfants ou encore le mariage des enfants. Élection en RDC, le groupe de coordination électorale s'est réuni mardi dernier à Kinshasa. Objectif, mettre en place un projet d'appui au cycle électoral de la RDC pour 2015 et 2016. Ce groupe est composé de la MONUSCO, du PNUD, des partenaires techniques et financiers. La réunion a consisté notamment à procéder à l'évaluation du soutien logistique de la MONUSCO à la CENI, de la finalisation de l'opération de fiabilisation du fichier électoral ainsi que de la stabilisation des cartographies opérationnelles et du budget des opérations électorales.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
La réforme de la police nationale congolaise, parlons-en, ce processus est dans sa phase de mise en œuvre. Une mise en œuvre qui s'effectue suivant des priorités définies dans le plan quinquennal de cette réforme. Ce sont là les propos du général Michel Elessé. Vous allez l'écouter dans une interview accordée à Jean-Pierre Elali et Coco. Le secrétaire exécutif du comité de suivi de la réforme de la police aborde aussi la question de l'amélioration des conditions de vie et de travail du policier, ainsi que des défis à relevé en 2015. Suivez.
Général Michel Elessé, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Alors, vous êtes le secrétaire exécutif du comité de suivi de la réforme de la police. En quoi consiste l'apport de la MONUSCO, dont l'une des missions est d'appuyer la réforme de la police nationale congolaise?
La MONUSCO, par sa branche Impol, est un partenaire de la réforme de la police nationale. Son appui conseil intervient à la conceptualisation de la réforme, à la mise en œuvre, au suivi et évaluation, et dans le domaine de formation des policiers. Au secrétariat exécutif du CCRP, les experts Impol sont présents dans différents groupes de travail. Le poste même de secrétaire exécutif adjoint du CCRP est occupé pour le moment par un représentant Impol en la personne d'Alain Grelier, colonel de gendarme. Par ailleurs, les experts Impol sont aussi présents à la cellule réforme au commissariat général de la PNC, à l'inspection générale, à la direction générale des écoles et formations et dans les provinces au des écoles en tant que formateur de policiers.
Est-ce que vous êtes satisfait de cet apport ou vous pensez que la MONUSCO peut aller plus loin dans son appui général?
La MONUSCO travaille avec nous.
Vous êtes satisfait?
Oui, je suis satisfait. Je pense que la MONUSCO est en train même d'étudier la possibilité de créer des points focaux dans les secteurs où elle se trouve afin de contribuer à l'appropriation de la réforme.
Alors, la police de proximité est un des projets du plan quinquennal de la réforme de la police nationale. Quel est l'état des lieux de ce projet? Est-il opérationnel ou toujours en étape d'expérimentation?
Je voudrais d'abord préciser que la police de proximité n'est pas une nouvelle unité de police. C'est plutôt un nouveau mode de fonctionnement de la police, une nouvelle manière de travailler de la police. Alors la phase d'expérimentation de la police de proximité est terminée. Les résultats de la dernière évaluation révèlent que les policiers formés en police de proximité se sont appropriés ce nouveau mode de fonctionnement de la police et qu'ils exercent leurs fonctions à la grande satisfaction de la population et des autorités politico-administratives. Bientôt, le lancement de la mise en œuvre de la police de proximité par le gouvernement sur l'ensemble du territoire national interviendra.
On peut citer quelques provinces où cette expérimentation a eu lieu?
L'expérimentation a eu lieu pour les provinces de l'Est à Bukavu, pour les provinces du Centre à Kananga et à l'Ouest dans la ville de Matadi. Le PNUD expérimente également la police de proximité dans la cité de Bounia.
Général, on ne peut pas parler de la réforme de la police sans parler du policier lui-même, ça parce que c'est l'acteur principal. Les conditions de vie et de travail du policier laissent à désirer, c'est un secret des polichinelles, et cela a une incidence sur son rendement. Quels sont les efforts menés pour requalifier ces conditions de vie et de travail?
Je dois dire d'abord que la réforme de la police, c'est l'amélioration justement des conditions de vie et de travail des policiers pour leur permettre d'accomplir convenablement leur mission de sécurité.
Mais cela ne transparaît pas?
Oui, mais c'est un processus. La loi numéro 13/013 du 1er juin 2013 portant statut du personnel de carrière de la police nationale a apporté la solution au problème de conditions de vie et de travail des policiers. En effet, l'article 135 de cette loi prévoit une rémunération en faveur du policier. Parce que jusqu'à présent, les policiers reçoivent des primes. Cette rémunération comprend le traitement, les allocations familiales ainsi que des primes. Un projet de décret d'application de cette disposition légale est déjà élaboré et va bientôt être envoyé au gouvernement. Quant aux conditions de travail, elles commencent à s'améliorer grâce aux efforts du gouvernement et à l'appui de certains partenaires au développement. Ces efforts ont permis de construire, de réhabiliter et d'équiper quelques infrastructures de la police au niveau central et au niveau des provinces.
Nous sommes en 2015. Quels sont les défis et même les priorités en 2015 général dans le cadre de la réforme de la police nationale congolaise?
La réforme de la police est actuellement dans sa phase de mise en œuvre. La conceptualisation se poursuit. notamment par l'élaboration des différents textes d'application, des textes fondateurs de la réforme, la loi organique, le statut du policier, et que par l'organisation et le fonctionnement des structures de la police nationale. Cette mise en œuvre s'effectue suivant les priorités qui sont définies dans le plan d'action quinquennal de la réforme. Elle nécessite une réelle appropriation de la part des policiers, de la population et du gouvernement. Les directions et services du commissariat général et les commissariats provinciaux sont appelés désormais à accélérer cette réforme dans leurs champs respectifs. De même, le gouvernement doit mettre à disposition des crédits budgétaires qui sont prévus dans la loi des finances pour exécuter les projets qui sont inscrits dans le plan d'action quinquennal. Les priorités de 2015 pour la réforme de la police sont la formation accélérée des policiers en fonction, le dégagement d'une partie du personnel vieillissant et le recrutement pour rajeunir les effectifs, la modernisation des gestions de ressources humaines par la maîtrise des effectifs et pour compléter la base de données des policiers retardataires, et également la construction de l'académie de police pour la formation des policiers et des écoles de police évidemment, la construction de commissariats, de sous-commissariats dans quelques provinces, l'équipement pour le maintien et le rétablissement de l'ordre public. Alors, en ce qui nous concerne, nous, au secrétariat exécutif, nous fixons pour l'année 2015 les priorités suivantes. Nous voulons poursuivre la rédaction des avant-projets des textes d'application de la loi organique et de la loi portant statut du policier. Car sans texte d'application, on ne peut pas parler de réforme. Nous allons poursuivre la vulgarisation de la réforme en général et de la police de proximité, le nouveau mode de fonctionnement en particulier, dans toutes les provinces. Nous allons bien sûr, assurer le suivi et l'évaluation des actions qui sont menées sur le terrain par la police qui est chargée de la mise en œuvre et proposer des ajustements nécessaires en étroite collaboration avec nos partenaires internationaux qui travaillent avec nous et la société civile.
Comment entendez-vous voir la suite de la coopération entre la police nationale congolaise et la police UN, ainsi que d'autres organismes onusiens comme le CNUD?
La MONUSCO apporte un appui conseil et technique à la réforme de la police à travers la section UNPOL de la MONUSCO. Quant aux autres organismes des Nations Unies qui appuient la réalisation de projets sur le terrain, leur apport est capital pour l'atteinte de la finalité de la réforme. Le CNUD, par exemple, appuie la police nationale dans la mise en œuvre du projet police de proximité dans la cité de Bunia, dans la province orientale. Ils ont le projet de continuer cette expérimentation également dans la ville de Goma.
Général, Radio Capi vous remercie pour votre disponibilité.
Merci infiniment.
Et pour la nouvelle de province, rendons-nous au sud Kivu, où les opérations militaires contre les combattants rwandais des FDLR ont été lancées cette semaine par les FARDC. Quelles sont les dispositions prises par le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés pour la protection des personnes sous mandat, notamment les déplacés internes et les réfugiés burundais et rwandais dans le territoire d'Uvira? La réponse dans cette conversation téléphonique entre Honoré Missenga Kalala et Fiston Goma, journaliste de Radio Okapi à Uvira.
Fiston Goma, bonjour.
Bonjour, Honoré Missenga.
Alors Fiston, dites-nous, qu'a fait ou que fait le ASR pour la protection des déplacés internes et des réfugiés rwandais et burundais sur place là à Uvira par rapport aux opérations militaires engagées par l'armée congolaise contre les rebelles hutu-rwandais?
D'entrée de jeu, Honoré, disons que le ASR a été à la tête d'une mission humanitaire dans la paix de la Ruzizi et à l'Emera, c'était mercredi dernier. Objectif de cette mission, selon le ASR, vérifier sur les lieux l'information sur la présence à l'Emera des déplacés internes fuyant les combats lancés par le FARDC contre le FDLR dans le groupement de Kigoma. L'information reçue parlait notamment des centaines de dépendants de FDLR qui se trouveraient à l'Emera en provenance des zones de combat. En principe, toutes ces personnes devraient avoir droit à une assistance de la part du ASR. Il faut cependant rappeler ici que, parallèlement à cela, le ASR organise depuis quelques temps les rapatriements volontaires des réfugiés rwandais dans leur pays d'origine. Et des dispositions d'accueil existent pour les candidats à cette opération. tout comme d'ailleurs ceux qui désirent encore rester en RDC, des dispositions de leur prise en charge existent aussi, tout en sachant bien évidemment, Honoré, qu'au sud de Kivu, il n'y a pas de camp de réfugiés. Ceux-ci vivent avec les populations locales. Dans tous les cas, en ce qui concerne la situation actuelle avec les opérations militaires en cours contre le FDLR, les instances du HCR pourront toujours prendre des mesures appropriées selon les données sur le terrain.
Et sur le terrain, justement, Fiston, quelles sont les difficultés que le HCR rencontre dans la localisation et l'identification de ces réfugiés ou, si vous voulez, de ces dépendants de FDLR?
Effectivement, le HCR rencontre quelques difficultés dans la localisation et l'identification de ces réfugiés. Il s'agit notamment de la difficulté d'accès aux endroits où ceux-ci se trouvent suite au mauvais état des voies routières et aussi à cause de l'insécurité. Il faut aussi noter que les contraintes budgétaires ne permettent pas non plus souvent l'implémentation des activités planifiées honorées.
Oui, Fiston, en dehors de la situation des réfugiés, la mission humanitaire conduite par le HCR dans la plaine de la Ruzizi a rencontré aussi les représentants des déplacés internes des Moutaroulé à Sangue. Quelle a été la préoccupation majeure exprimée à la délégation de cette mission humanitaire par les délégués de ces déplacés?
Leur préoccupation principale, les délégués des déplacés ont insisté là-dessus, c'est qu'une solution durable et la création d'un environnement propice soit trouvée pour une cohabitation pacifique des communautés à Moutaroulé. Et en attendant, ces déplacés ne sont pas disposés de rentrer pour le moment dans leurs villages respectifs.
Merci Fiston Ngoma.
Merci à vous, Honoré Missenga.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
La question du jour concerne la situation humanitaire dans l'est de la RDC. Sylvestre Ntumba Mudingai, chargé de communication à Ocha, répond au confrère Patrick Isabeni de Goma. Suivez.
C'est Patrick Isabeni. Je vais poser la question à l'aspect humanitaire. Auprès de vos agences de système des Nations Unies, surtout l'OCHA, quels sont les mécanismes de suivi par rapport à votre rapport que vous avez donné au téléphone? Parce que vous avez dit que bon nombre de Congolais ne mangent pas tellement à leur faim. Surtout, vous avez spécifié la partie Est.
Effectivement, il y a un rapport qui a été produit dans le cadre de classification de la sécurité alimentaire qui a nettement indiqué que la plupart des territoires congolais connaissent un déficit alimentaire. C'est pas un rapport de OCHA, c'est un rapport qui est fait sous le lead de la FAO, avec un certain nombre de partenaires qui interviennent dans la sécurité alimentaire. Parmi les raisons qui expliquent cette situation de précarité, il y a effectivement la situation de conflit que connaissent beaucoup de territoires à l'est, qui empêchent beaucoup de populations d'accéder par exemple à leurs champs, la situation de conflit qui détruit les moyens de subsistance. Et par rapport à cette situation, effectivement, des recommandations ont été faites et vous savez que parmi les partenaires privilégiés pour apporter une réponse à toute cette situation, il y a notamment le gouvernement de la République démocratique du Congo qui, je crois, en partenariat avec tous les partenaires qui interviennent dans la sécurité alimentaire, doivent apporter une réponse à ça. Mais parmi les conditions, il faudrait effectivement stabiliser certains territoires parce que dans une situation de conflit, on risque de continuer à connaître cette précarité qui entame fortement les moyens de subsistance des populations congolaises.
Magazine des Nations Unies, portrait du jour.
Je m'appelle Liliane Ekuniti, je suis célibataire. J'ai fait un bac B au collège La Flèche. J'ai fait le cycle 1 de l'École nationale d'administration, diplomatie et relations internationales. J'ai fait une maîtrise de droit privé à l'université d'Abomey-Calavi et un diplôme d'études approfondies en droit de l'homme et démocratie. Après ma maîtrise de droit, j'ai géré un restaurant pendant 2 ans où j'ai eu l'occasion d'apprendre la gestion du personnel, un certain nombre de choses dans le milieu professionnel qu'on n'apprend pas forcément à l'université. Ensuite, j'ai travaillé avec une institution nationale, privée, qui faisait de l'appui aux artisans, le bureau d'appui aux artisans qui était financé par la coopération suisse, où on faisait de la formation pour adultes en développement de micro-projets et de micro-entreprises. Et en juillet 2006, j'ai rejoint les Nations Unies en tant que volontaire des Nations Unies à la division des droits de l'homme de l'époque et au bureau conjoint des Nations Unies aujourd'hui. J'ai travaillé successivement dans la province du Nord-Kivu, Goma, Butembo, Beni,
dans la province du Katanga et au Nord Katanga à Kalemi, dans la province orientale à Kisangani et à Dungu, et au Sud Kivu où je suis encore actuellement, à Bukavu. Je suis officier des droits de l'homme depuis 2006 que j'ai intégré la MONUC puis la MONUSCO. Et en tant qu'officier des droits de l'homme, je participe au mandat général du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme qui est de veiller et de monitorer la situation des droits de l'homme en RDC. C'est une tâche immense, comme vous pouvez l'imaginer. Dans mes attributions d'aujourd'hui, je suis en charge de la lutte contre l'impunité. Je travaille essentiellement à l'organisation des audiences foraines, des enquêtes conjointes judiciaires avec les autorités judiciaires, militaires et civiles. Je travaille également à la protection des civils et je fais le monitoring, par exemple, des opérations militaires conjointes pour s'assurer que dans la lutte pour la paix et la sécurité, les populations congolaises ne sont pas affectées par les effets négatifs des affrontements militaires. Je travaille également sur la formation de nos troupes, quatre bleus qui viennent, comment leur expliquer en quoi consiste notre mandat, et leur expliquer comment nous travaillons ensemble, en quoi ils peuvent nous être importants avec les MILOX, pour leur expliquer qui sont nos yeux et nos oreilles sur le terrain, et sur les éléments sur lesquels ils doivent insister lorsqu'ils font leur travail d'observation militaire. Lorsque j'ai du temps libre, je lis, je fais la cuisine, je fais un peu de sport, je fais quelques recherches sur les sujets qui m'intéressent. J'adore écouter de la musique. J'aime beaucoup la musique congolaise. Avant d'arriver en RDC, j'écoutais beaucoup la musique congolaise, mais en RDC, je suis complètement obnubilée par le travail occupé, par le temps que je donne à lutter pour les droits de l'homme. Et je crois que j'ai perdu l'habitude d'écouter de la musique congolaise, mais je vais reprendre. Je fais du vélo d'appartement, et j'aime beaucoup nager également. Ce que j'aime manger, c'est yam pilé avec la sauce d'arachide. Mais en RDC, le mets que j'ai découvert que j'aime beaucoup, c'est le liboké de poisson avec du makemba. J'adore ce mets. Je me suis arrangée pour avoir un plat spécial aujourd'hui avant de retourner à Bukavu. Mes projets d'avenir, je suis entrée aux Nations Unies en rêvant d'occuper de très grandes fonctions pour avoir l'occasion d'être à un poste de responsabilité et apporter ma touche à la construction d'un monde meilleur, surtout aux Nations Unies. J'ai eu l'occasion de voir que quand il y avait de volonté, on pouvait utiliser les moyens pour réaliser de grandes choses. J'ai fait un diplôme d'études approfondies et en principe, je devrais terminer mon cursus universitaire avec une thèse de doctorat. Et je pense que j'aurai l'occasion de la terminer et de la finir.
Magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Et pour la semaine qui commence, notez ces rendez-vous dans votre agenda. Mardi 3 mars, la chambre d'appel de la CPI rendra en audience publique à 11h30 précise, heure de la haie, son arrêt concernant la réparation pour les victimes dans l'affaire Tomba Lubanga. Autre rendez-vous, bien sûr, c'est la date du 8 mars qui tombe cette année un dimanche. Ce sera, comme vous le savez, la journée internationale de la femme. Ces programmes seront naturellement suivis par votre magazine. Et c'est déjà la fin de cette émission supervisée par Ben Kabamba et coordonnée par Jean-Pierre Elali Coco. Honoré Missenga Kalala était au reportage, Lydie Bessina à la présentation et Paul Badianyama à la mise en onde. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet, c'est le www.radioocapi.net. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.